Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio aujourd'hui, Natacha Dubois et Clément Combes de l'Infini Dehors Théâtre, une compagnie de Grenoble qui va proposer le vendredi 25 juillet à 20h30 une lecture théâtralisée qui s'appelle 744, écrite en son temps, il y a une dizaine d'années, par une habitante de Die, Elisabeth Chabuel. C'est une pièce qui parle d'événements de Vassieux en Vercors en juillet 44. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu de cette lecture théâtralisée. De quoi parle-t-elle en fait? Parce que j'en ai dit juste une introduction, mais c'est très sommaire. Donc, de quoi ça parle?
Alors, c'est un texte qui a été écrit en juillet 2004, à l'occasion du 60e anniversaire des événements de Vassieux-en-Vercors, par Elisabeth Chabuel, qui est donc une auteure d'Ivoise, qui a choisi de traiter des souvenirs de sa mère qui était enfant à Vassieux-en-Vercors en juillet 44. Donc, elle avait 8 ans. Donc en juillet 44, il y a eu un débarquement allemand sur le plateau du Vercors qui était complètement démesuré par rapport aux résistants qu'il pouvait y avoir sur le plateau et qui ont notamment brûlé le village de Vassieux. Il y a eu, je ne saurais pas dire le nom.
Quelque chose comme 170 morts, je crois.
Et donc le reste de la population s'est enfui dans les bois, dont cet enfant, ses parents et un groupe d'amis. Et donc le texte traite de cette fuite dans les bois au moment du 21 juillet 44.
De leur vie dans le maquis peut-être?
C'est pas vraiment dans le maquis, c'est juste qu'ils se cachaient dans les bois et ils essayaient de survivre en se cachant dans les bois. Donc ce qui leur est arrivé à ce moment-là, comment ils pouvaient se nourrir, où c'est qu'ils dormaient, comment ils se cachaient, les rencontres qu'ils ont pu avoir avec les Allemands. Et jusqu'à la descente donc des parents et de l'enfant à Romeillé pour fuir le plateau.
Alors, quelle émotion suscite une telle lecture théâtralisée? Quel est le but? C'est le devoir de mémoire? C'est de montrer ce que peut ressentir un enfant de 8 ans face à la barbarie humaine? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce spectacle?
Je ne sais pas si devoir de mémoire est le bon terme, mais en tout cas désir de mémoire ou de poser des mots sur ce que, en fait, cet enfant était ma grand-mère et Elisabeth était ma mère. Et donc, du coup, peut-être que je peux essayer de faire des liens entre ce qu'elle a pu écrire et ce que j'ai pu ressentir des souvenirs qu'a pu me raconter ma grand-mère. Elle était enfant, donc elle m'a dit plusieurs fois, moi, je peux pas vraiment te dire tout ça parce que j'étais enfant et me cacher dans les bois, c'était comme un jeu pour moi. C'était comme un immense camping et je me rendais pas compte vraiment de ce qui se passait. Et je crois que dans le texte, il y a ça. Il y a à la fois la naïveté peut-être de l'enfant qui ne sait pas vraiment ce qui lui arrive et en même temps l'effarement d'un adulte qui va retravailler sur les souvenirs de quelqu'un 60 ans après et qui va essayer de les mettre au propre et de comprendre ce qui a pu se passer. Donc ce n'est pas vraiment du devoir de mémoire parce qu'en plus, quand elle a écrit ça aussi, ce qui fait que le texte est un peu plus compliqué, elle a écrit ça en 2004, elle est à la fois traductrice d'albanais, donc elle était très en lien avec ce qui se passait au Kosovo à ce moment-là. Et c'est les images des Kosovars qui fuyaient dans les montagnes qui lui ont dit, ben, à l'occasion de son 60e anniversaire, j'ai envie de travailler sur ce que c'est que l'exode dans les bois. Donc ça parle de Vassieux, mais ça parle aussi de n'importe quelle, de quelle survie, en fait. Ça parle de la survie, plus que...
Et d'ailleurs, dans le texte, il y a, le texte est assez universel, assez intemporel. Il n'y a jamais fait référence au Vercors, aux Allemands, à la guerre de 39-45, pas du tout. Donc on pourrait très bien resituer ça dans un autre contexte, à part les lieux qui sont la forêt, certains arbres qu'on peut retrouver évidemment à d'autres endroits et pas ailleurs. Mais sinon, c'est un texte relativement universel sur l'errance en période de guerre.
Mais votre grand-mère en question a été confrontée à des événements violents ou est-ce que c'est vraiment que de la survie dans les bois?
Donc dans le texte, il y a plusieurs histoires. Le texte donc, qui a été publié en 2008, c'est à ce moment-là qu'on a créé le spectacle et une série de petits tableaux. Et le spectacle est composé de ces textes-là, comme, qui sont comme une sorte de journal. Et d'un texte qui n'est pas publié, qui s'appelle Le Veilleur. Donc Le Veilleur, dans ce texte-là, il y a une première confrontation avec les Allemands. Le groupe est dans une cabane dans les bois et ils sont en train de se reposer. Et une des personnes du groupe voit par la fenêtre que les Allemands arrivent. C'est un vieux monsieur et il dit aux gens de partir, à tous les gens qui sont dans la maison de partir. Et lui, il reste. Donc les Allemands rentrent dans la maison, ils voient qu'il y avait plein d'autres gens parce qu'il y a encore des restes de nourriture sur la table, tout ça. Il leur dit qu'ils sont partis dans une direction en leur montrant la mauvaise direction, les Allemands partent. Et lui, qui n'avait pas voulu partir avec les autres parce qu'il se sentait trop vieux, se sacrifie en quelque sorte et se fait tuer par les Allemands. Alors que le groupe a pu partir. Donc là, il n'y a pas une vraie rencontre entre l'enfant et les Allemands, mais il y a quand même cette chose qui est évitée. Cet événement est l'occasion d'un livre qui va être publié plus tard par Elisabeth Chabuel qui traite aussi de cette histoire. La fin de cette histoire, c'est que le corps de ce monsieur qui s'appelle Martin dans l'histoire est resté très longtemps dans l'herbe et que pendant plusieurs années, l'herbe n'aurait pas repoussé à la place de son corps. Donc ça, c'est un des souvenirs de ma grand-mère, de cette herbe qui avait la marque du corps. Et ensuite, la deuxième rencontre avec les Allemands. Ils sont encore dans une cabane, j'imagine que c'est dans une autre. Les Allemands arrivent, ils les font sortir. Ils sont pas vraiment habillés parce qu'ils se sont pris la pluie. Donc la mère est juste en chemise, ils n'ont pas de chaussures. Les Allemands les font sortir, les font aligner contre le mur. Et ils sont sûrs qu'ils vont se faire tuer. Et à ce moment-là, un gradé arrive et leur parle en allemand. Et ils baissent leurs armes et ils partent. Ils détruisent la maison, ils pillent les nourritures, mais il leur arrive rien. Ça, c'est la deuxième rencontre qu'il y a vraiment dans le texte. Ensuite, il y a l'ennemi qui vient du ciel, des parachutages et les gens qui sortent des bois pour voir les parachutes parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des parachutages alliés, donc des armes et de la nourriture. Et là, en fait, c'était les parachutes allemands. Donc il y a une rencontre qui se fait de loin là, avec le groupe parce qu'ils se rendent compte assez vite que ben, en fait, non, c'est pas du parachutage ami, mais que c'est les Allemands qui arrivent. Donc ils retournent dans les bois. Donc c'est pas une vraie rencontre, mais c'est ça qui amène le 21 juillet en fait. Et la troisième pseudo-rencontre, ils sont dans une grotte sous la terre et ils entendent marcher les Allemands sur leur tête. Donc il n'y a pas encore rencontre, mais il ne leur arrive rien. Enfin, c'est un groupe qui survit. C'est pour ça qu'on peut raconter cette histoire d'ailleurs. Donc il n'y a pas de rencontre très très violente. À chaque fois, la violence est évitée.
Il y a le stress, la tension nerveuse.
Voilà.
Justement, je reviens à ma première question. Alors, quel l'intérêt de ce texte aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça pourrait évoquer pour les gens qui vont venir vous voir ? Vous avez parlé du Kosovo, donc c'est un texte universel.
Oui.
C'est quelque chose qui nous rappelle que la barbarie n'est jamais très loin. C'est un texte un peu politique, un texte un peu engagé, un texte un peu militant, un texte poétique. Comment le classifier ?
C'est de la poésie. Et d'ailleurs, c'est édité comme un texte de poésie. Donc c'est pas un texte militant au sens
antifasciste.
C'est pas un texte volontairement militant. C'est un texte poétique. Après, effectivement, c'est un texte qui traite de la survie et de la survie en temps de guerre. Donc forcément, derrière, il y a quelque chose de militant. On n'a pas choisi de travailler sur un sujet qui n'avait aucun lien avec le politique au sens du vivre ensemble.
Et est-ce que vous avez des notions de ce qu'ils ont vécu vraiment, historiquement ? Combien de temps ils sont restés cachés ? Est-ce que ça en parle, ça, ou pas ?
Alors, le temps du spectacle et le temps de l'écriture, de la performance. C'est-à-dire qu'elle écrit pendant 31 jours, un texte par jour, les jours où la librairie est ouverte. Donc, il n'y a pas le dimanche et pas le lundi. Donc, il y a un peu moins de textes. Et les dates des textes correspondent vraiment aux dates de l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas vraiment de chronologie. Le 21 juillet arrive vraiment le jour du 21 juillet. Donc elle raconte ce qui se passe le 21 juillet à partir du 21 juillet. Mais ce qui s'est passé avant, où ils sont déjà en train de marcher, en fait, dans l'histoire véritable, ça se passerait après le 21 juillet. J'ai jamais vraiment posé la question de combien de jours ils sont restés à se cacher dans les bois. Je sais qu'en tout cas, c'est plusieurs jours. Le temps de se dire, il faut qu'on descende du plateau. Mais je sais pas combien de jours exactement. Et c'est quelque chose qui est un peu flou dans l'histoire, puisque ça travaille plutôt sur comment on se souvient de ça.
En plus, ce n'est pas elle qui a vécu les événements. Elle a compilé les sources de sa mère.
Oui, et qui est quelqu'un de très discret et qui parle très peu. Et qui va juste à un moment voir une image qui va dire « Ah, ça me rappelle ça ». Mais ce n'est pas quelqu'un qui se raconte et qui va dire « Il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Et qui elle-même va nous faire une chronologie. Elle nous raconte les souvenirs... quand ça lui vient émotionnellement. J'ai en tête quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais un jour, elle a vu un tableau de deux personnages qui regardent un peu dans le vide. Et le tableau, c'était la peau du visage était un peu mâchurée. Et là, elle regarde cette chose et elle me dit, ah, ça me fait penser à, je ne sais plus comment il s'appelle, un homme et son commis qui avait été pendu dans la forêt de Lente. Et elle commence à me raconter comment ils avaient été pendus et les horreurs, comment on leur avait arraché les ongles. Mais sinon, elle ne m'en parlera pas. Donc le texte, il traite aussi de ça, de tout d'un coup, un jaillissement de souvenirs et puis une impossibilité d'en dire plus et de faire des liens avec une narration, vraiment.
Alors, outre le fait que ça soit votre grand-mère, quelle raison vous a poussé à vouloir mettre depuis 2008 ces écritures de votre mère en scène?
Cette histoire me touche. Je pense parce que c'est ma grand-mère, mais aussi parce que mes grands-parents, de façon générale, ont vécu cette histoire, et que cette histoire, bien qu'il se soit passé des tas d'autres choses depuis, elle fait partie de notre présent aujourd'hui, même si les commémorations du 21 juillet, là, sont très officielles. Je pense que c'est des événements qui font partie de notre histoire, qu'ils n'ont pas été assimilés encore, en tout cas pas par ma génération. On a encore besoin de comprendre ce qui s'est passé et de revenir sur ces événements-là pour comprendre où on est aujourd'hui et où on va. Et quand j'entends parler de la Palestine, par exemple, j'ai pas d'image véritablement de ce qui se passe là-bas. Et pourtant, je pense que si je le comprends un peu, c'est aussi à travers ce qu'a pu me raconter ma grand-mère, qui a été touchée directement par un conflit, alors que moi jamais. Du coup, je pense qu'il est important pour moi parce qu'il parle du présent quand même.
Plus largement, ça fait partie aussi d'un travail de longue haleine, de ton travail de metteur en scène autour de la mémoire et notamment du rapport à la Seconde Guerre mondiale.
Oui, en fait, le travail de la compagnie est particulièrement autour de cette époque. Le premier texte qu'on a monté, donc c'est un texte d'Heiner Müller, qui est un dramaturge allemand. Le texte s'appelle « Le dieu bonheur » et il raconte l'histoire d'un dieu, donc le dieu bonheur, qui tombe sur Terre au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui voit le pays complètement détruit et qui va essayer de rechercher du bonheur, de rechercher comment les hommes peuvent avoir accès au bonheur. C'est à la fois drôle et satirique un peu, et poétique en même temps. Et quand Müller écrit ce texte, il commence à écrire en 80 et il l'écrit jusqu'à sa mort en 90. Il essaye de comprendre l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je pense que ce premier texte en dit beaucoup sur ce qu'est le travail de la compagnie. Ensuite, on a travaillé sur un texte d'Antonin Artaud pour en finir avec Le jugement de Dieu, qui est un texte qu'il écrit en 47, c'est un de ses derniers textes, où il revient encore une fois sur ce qui s'est passé pendant la guerre, le rôle des Américains dans le conflit et comment la place qu'ils prennent là va marquer la place qu'ils vont avoir dans la suite de l'histoire, dans le monde. Le dernier spectacle qu'on a créé, c'est un texte que j'ai coécrit avec une jeune auteure à partir de documents de la vie d'une femme qui aurait été tondue en 45. Donc c'est encore sur cette période. Et c'est pas seulement la tonde qui nous intéressait, mais c'est plutôt comment nous, aujourd'hui, alors qu'on a côtoyé ces gens-là, on n'en a jamais entendu parler de ce qu'était de la collaboration, de pourquoi elles ont été tondues. En fait, oui, ce qui m'intéresse, c'est l'écart entre cet événement qui, pour moi, est marquant de notre être ensemble aujourd'hui, ne serait-ce quand on touche aux acquis sociaux aujourd'hui, à quoi on revient? On revient à ce qui a été posé par le comité de résistance. En fait, on est tout le temps en lien avec... C'est comme une sorte de début de notre histoire.
Est-ce qu'il y a un public pour ces genres de choses? Puisque si vous êtes un petit peu omnibulé par cette période, est-ce que Infini Dehors Théâtre, qui est situé à Grenoble, est vraiment estampillé un petit peu comme une espèce de compagnie qui essaye de faire ce lien entre ces événements fondateurs, hein? On peut penser toujours à Indignez-vous par Monsieur Hessel, hein, qui dit qu'effectivement, si on oublie, comme vous le disiez, les acquis de la résistance
du CNR,
on pourrait revenir à d'autres temps plus barbares.
En fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand vous m'avez dit « est-ce que c'est un spectacle militant ?» Je crois que même si mon travail il part d'un besoin de parler de politique au sens du vivre ensemble, c'est pas un travail militant. C'est d'abord un travail poétique et c'est un travail pluridisciplinaire. En général, sur les spectacles, il y a des musiciens, des danseurs et du théâtre. peut-être que 7/44, c'est le spectacle le plus ouvertement lié à cette période et... C'est comme une toile de fond, en fait. Donc, je pense pas qu'on soit estampillé sur cette période. Je pense que moi, c'est ma trame, mais que les gens sont libres aussi de voir autre chose de ce qu'on fait.
Et donc, vous avez un public qui vient vous voir nombreux et variés.
Alors, on est une jeune compagnie. La compagnie a été créée en 2007. Le milieu du spectacle est un peu difficile. À chaque fois qu'on a joué, on a eu du public, mais on n'est pas connu, donc on n'a pas un public. Enfin, je suis incapable de vous dire si on a un public qui nous suit. On a des gens qui nous suivent, mais de là à dire un public qui viendrait parce qu'il boit un fini dehors, je suis pas sûre.
Peut-être un petit peu Natacha Dubois, si, quand même. Après, pour revenir à votre question, les autres spectacles dont Natacha parlait, ils ont tourné dans des espaces, dans un univers théâtral. Celui-ci, 7/44, il est plutôt en lien avec un réseau lié à la mémoire du Vercors, au questionnement des historiens aussi sur la question de la guerre. Alors, y compris du côté des civils, parce qu'on s'intéresse souvent, disons, à la résistance, au maquisard, etc. Mais il y a aussi toute une part de gens qui étaient là, de civils, qui essayaient de vivre, de survivre. Et ce texte s'intéresse surtout à ces gens-là. Et donc, le spectacle 7/44, il a plutôt tourné dans un réseau lié à ce devoir de mémoire dont vous parliez. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu notre dernière représentation, le 21 juillet, à Vassieux, au Mémorial de la Résistance, à l'occasion des commémorations avec l'arrivée de la venue de Manuel Valls, etc. Donc ce spectacle, il est plutôt dans ce genre de réseau-là.
Alors si je comprends bien que Natacha Dubois est particulièrement concernée par ce texte qui a été écrit par sa mère concernant les événements de sa grand-mère, comment vous le vivez-vous ? Est-ce que vous vous sentez à ce point concernée ? Ça vous touche aussi ?
Alors, pour boucler la boucle, il se trouve que je suis le compagnon de Natacha Dubois. Donc, quelque part, c'est une histoire de famille, ce texte. Elle m'en a parlé au tout début avec l'envie de mettre en musique ce texte. L'attrait pour la poésie est limité chez moi. Après, l'expérience du projet, le rapport d'héritage de la grand-mère jusqu'à la fille, jusqu'à la petite fille, etc. Tout ça m'intéresse. Je trouve ça très pertinent comme démarche. Après, moi, mon implication, elle est aussi d'être auprès de Natacha, dont je suis le travail depuis un moment. Je participe à plusieurs de ses, à certains de ses spectacles. Voilà, elle m'a proposé à un moment donné où j'étais disponible et j'avais du temps pour ça. Et voilà, ça continue.
En tant que guitariste, on en reviendra après, mais je voudrais juste terminer un peu sur le côté un petit peu historique de l'affaire, pour rappeler que vous ne jouez pas ce spectacle le vendredi 25 juillet à 20h30, n'importe où, puisque Espenel aussi a beaucoup souffert pendant la guerre. Hein. Il y a eu une attaque assaillant, et puis après les Allemands ont été se venger à Espenel, qu'ils ont aussi brûlé. Oui. Et les habitants d'Espenel ont aussi été dans la montagne, donc ça doit être un spectacle qui leur a parlé aux habitants d'Espenel, je suppose.
Oui, ils ne l'ont pas encore vu, mais j'espère que ça va leur parler.
En tout cas, ils vous ont
ils
invité.
Ont été intéressés par le projet, oui. Mais en fait, ce qui est assez... fou, c'est que le 21 juillet, qui est la date de la destruction de Vassieux, est aussi la date de la destruction d'Espenel. Donc il y a vraiment quelque chose entre ces deux villages. Mais pour nous, c'est pas quelque chose de particulier parce qu'en fait, ce texte est fait. Comme le disait Clément, on l'a joué beaucoup dans des lieux de mémoire. La date d'avant Vassieux, on a joué dans le Trièves, à Trémigny, qui est le lieu d'un ancien maquis qui a été dénoncé et donc pris par les Allemands. Avant, on a joué au musée de la résistance de Grenoble, donc c'est juste un musée, mais ça, c'est quand même un moment de commémoration. On a joué aux grottes de la Luire, donc on a joué à Nantua, dans l'Ain, qui est aussi un lieu de résistance fort. Et à chaque fois, c'est un peu impressionnant pour nous de se dire qu'on va jouer sur les lieux de la mémoire, mais je pense que ça fait partie de ce spectacle, en fait, d'utiliser, disons, les ondes de la mémoire pour que puisse exister l'événement.
Et alerter les générations actuelles qui, effectivement, ne sont pas forcément toutes au courant de ce qui s'est passé et qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'une guerre peut représenter en termes de souffrance pour tout un chacun, en fait.
Je ne sais pas si on peut dire qu'on s'en rend compte après ce spectacle, mais, mais oui, en tout cas, ça... je pense que cette heure de spectacle est quand même une plongée dans ces événements-là et qu'on n'en ressort pas vraiment indemne. Ça aussi, pour moi, ça fait partie du spectacle. Et le 21 juillet, quand on a joué à Vassieux, c'était un peu dommage pour nous parce que il y avait tellement de monde et c'était tellement un gros événement qu'on n'a pas pu rentrer en relation avec le public. Mais moi, j'aime beaucoup sortir de ce spectacle et que les gens soient là et qu'on ouvre la discussion sur mais cette personne, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et moi, dans ma famille, il s'est passé ça. Et cette rencontre du public, elle est très importante pour moi. Et c'est pour ça que je fais du théâtre, qui est un art qui est en lien avec le public, forcément.
Pour vous aider à vous faire une idée de ce qui vous attend, allons-nous passer un petit extrait.
Vendredi 9 juillet. J'entends l'histoire. L'enfant. Repartir. La mère, tête baissée, traquée.
Regard à droite, regard à gauche. Repartir.
Encore.
Tête baissée, traquée. Repartir.
Un peu faim, soif, et pas pu faire de toilette.
Encore.
Repartir.
Encore.
Encore. Au fil des jours, plus vraiment homme. Ni femme, enfant, mais créature,
plus vraiment,
corps et âme, réduit à plus simple expression, la plus simple
créature,
pas de fioriture,
réduit à plus simple
humain de terre et de souffle, et dont le ventre sans rien, rien que sa peur,
pas de fioriture,
sa peur, chacun du ventre,
de terre,
chacun dans son ventre, et de la bouche,
et dans le ventre.
Pas de
mots, rien.
Pas de mots,
rien que sa peur.
Ne pas effrayer l'autre,
sa peur.
L'enfant,
chacun pour soi.
La mère, chacun les parents, les amis, le père. Ne pas faire pleurer le père.
Pas de mots, pas de mots.
Tête baissée,
ne pas effrayer.
Traquer
l'enfant.
Regard à droite,
la mère, les parents, les amis.
Regard à gauche,
ne pas faire pleurer le père.
Tête baissée, traquer.
Repartir. Regard à gauche, repartir.
Tête baissée,
traquée.
Repartir.
Encore.
Maintenant, si on obliquait un petit peu vers la forme, comment ça se passe alors ? Hein, c'est peut-être moins poignant, mais c'est aussi important. À quoi peuvent s'attendre les spectateurs qui viendront au Temple d'Espenel ? Comment ça se passe, une lecture théâtralisée ?
Alors peut-être que lecture théâtralisée, c'est pas exactement le bon terme. Déjà, peut-être la part de la musique est très très importante. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler tout de suite le texte et la musique ensemble. Quand j'ai proposé à Clément de faire partie de ce projet, je lui ai parlé du travail de Neil Young sur le Dead Man de Jim Jarmusch et je lui ai dit voilà, je voudrais que la musique accompagne la marche dans les bois comme Neil Young accompagne le personnage William Blake dans le Dead Man.
Il a réussi.
Et ben, même s'il dit qu'il aime pas la poésie, c'est quelqu'un qui a une sensibilité au texte qui est assez incroyable. J'ai travaillé avec d'autres musiciens et ce rapport d'écoute et d'arriver à ne pas faire de la musique, mais dialoguer avec la poésie qui est une forme fixe, avec un rythme très particulier, c'est quelque chose de très difficile. Et je crois qu'il a réussi, oui.
Voilà, pour les auditeurs, il détourne le regard un peu gêné, il n'aime pas les compliments. Bon, il ne faut pas faire du spectacle si on n'aime pas, qu'on vous loue. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plutôt de l'ambiance qu'une musique. Alors, Clément, vous écoutez Natacha lire son texte et ça change de prestation en prestation. Vous ne faites pas forcément les mêmes accords. Comment vous le ressentez ? C'est plutôt d'une improvisation, peut-être.
S'il fallait essayer d'objectiver les choses, il doit y avoir 80% de choses très écrites et 20% d'improvisation, oui. Évidemment, il faut que je sois très à l'écoute de la manière dont le texte est dit. Mais finalement, en fait, c'est plutôt un dialogue. Elle aussi, elle est à l'écoute. Donc, effectivement, selon les représentations, il y a des énergies différentes. Bon. Mais après, il y a quand même une trame qui est là, qui a été écrite, que j'ai écrite et que j'ai composée en 2008. qui a bougé un peu avec le temps.
Peut-être que composer, c'est pas le bon terme, parce qu'on va croire que t'as composé la musique séparément. En fait, les répétitions, quand on répète, la chose fixe qu'on a, c'est le texte, et on va faire un premier jet où on dit le texte et sur lequel t'as posé la première fois des notes, et puis on s'est dit « Ah, ça marche bien, ça marche pas », et en fait, la composition, elle s'est pas faite séparément du texte. C'est comme une création d'une chanson, sauf que le texte est parlé. Donc c'est écrit, mais c'est écrit pour ce texte-là. Donc c'est pas non plus du bruitage.
Oui, il est très tissé avec le texte.
On a des partitions musicales, même si c'est de la voix parlée.
Uniquement la guitare.
Uniquement la guitare, oui. Mais avec à la fois des choses très mélodiques, et notamment des thèmes qui reviennent, parce que c'est un texte qui est très circulaire, et des espèces de répétitions, des phases, mais qui correspondent aussi à des états émotionnels des personnages. Moi, j'essaie de calquer ces itérations avec des thèmes qui peuvent revenir. Et des choses très mélodiques, et en même temps des moments où je serais plus dans l'ordre du bruitage, ou essayer de retrouver une espèce de, plutôt de jouer sur une espèce de texture musicale, de texture sonore plutôt qu'une mélodie proprement dite. Et donc dans ces moments-là, notamment cette texture sonore, c'est beaucoup plus improvisé. Là c'est, je dois être très attentif à ce qu'elle fait et m'adapter.
Vous m'avez dit que vous avez créé cette pièce en 2008, nous sommes en 2014, y a-t-il d'autres dates qui sont prévues ?
Alors, on l'a créée donc en 2008 au moment de la publication du livre, on a fait une tournée suite à cette création, et là ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué, donc on a été de nouveau sollicité à l'occasion du 70e anniversaire, donc on a fait une petite tournée là cet été. Cette date est la dernière date de cette tournée. Pour l'instant, on n'a pas cherché à vendre de nouveau ce spectacle. Peut-être que ce qui s'est passé là va faire que d'autres dates vont être mises en place, et la tournée n'est pas du tout fermée. En tout cas, c'est pas un spectacle qu'on a dit qu'on arrêtait, et on a encore envie de le jouer. Mais on part aussi sur d'autres projets, et du coup, c'est pas sur ça qu'on met toute notre énergie.
Vous avez d'autres spectacles en cours concomitamment ?
Oui. On sera en résidence à l'automne au Théâtre 145 à Grenoble pour créer un texte qui est aussi un texte d'Elisabeth à partir de la légende de la belle Justine, qui est la légende de Die, que j'imagine que vous connaissez.
Il faudra venir la jouer à Die, j'espère bien.
On espère. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de trouver le moyen de venir à Die, mais ça va peut-être venir.
Très bien. Alors sur ce, Clément et Natacha, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On peut rappeler quelques détails. Ça se passe effectivement au Temple d'Espenel le vendredi 25 juillet à 20h30. C'est un petit temple. Faut-il réserver ?
Oui. Alors, j'ai pas le numéro là sur moi. Faut réserver auprès de la Calade.
Pour la Calade, je mettrai pour vous-même, auditeurs, si ce spectacle vous intéresse, je mettrai sur la page dédiée à cette émission le numéro que je chercherai d'ici là. Sinon, peut-on trouver des informations ailleurs sur vos propositions ?
Alors, la compagnie a un site internet, www.infinidehors.org. Donc, il y a des informations sur ce spectacle et sur le reste de notre travail aussi.
Et est-ce qu'à la librairie de Die, est-ce qu'il reste des ouvrages ?
C'est possible, oui. 744 a été publié donc chez K Édition, qui est une petite maison d'édition du Royan. Donc je pense que le texte doit être disponible à la librairie Mosaïque.
Il y a ça, et puis peut-être même aussi sur votre site, y a-t-il un lien qui permet de s'adresser à cette maison d'édition ? Peut-être.
Je ne suis pas sûre.
C'est juste...
Je vais m'en occuper.
Créer des liens est toujours important en fait. Eh bien, en tout cas, Clément et Natacha, je vous remercie d'être passés à la radio pour annoncer ce spectacle, et puis je vous souhaite une bonne représentation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.